partout au Québec. Partout au Québec. Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mon Grain PM.
Eh bien, au lendemain du 1er juillet, c'est parti. C'est, le début des périodes de vacances. Ça commence le 1er juillet. On va parler de tout ça parce qu'il y a une autre canicule qui s'en vient et on va être dedans dans les prochaines heures si ce n'est pas commencé. Alors, des chaleurs importantes. Donc, comme à tous les ans, c'est message de prévention, de faire attention, de s'hydrater, bien sûr, et la sécurité nautique au premier chef également. Parce que toutes ces situations-là font en sorte que même si tu fais attention, même si tu es très prudent, c'est l'affaire de quelques secondes à peine pour qu'un enfant puisse plonger dans une piscine ou tomber dans la piscine. Personne s'en aperçoit, c'est la fête. Où est-il? Où est-elle? Et voilà donc, malgré toutes les mesures de sécurité que l'on puisse imaginer, eh bien, il se produit le drame et le pire peut arriver. Alors, je pense qu'il faut redoubler dans des périodes de canicule également où tout le monde se dit, ben, on a été confiné, là, c'est la chaleur, on va en profiter, on va se baigner et on va se rafraîchir. Faites attention à ça, c'est très important. On va parler également de Air Canada, parce que Air Canada, c'est le cas de dire, nous coupe les ailes. Il y a des suspensions de services dans les régions au Québec, 30 régions à travers le Canada, mais 8 régions à travers le Québec qui ne seront plus desservies, en tout cas pour un temps indéterminé. Il va falloir revoir toute cette affaire-là, parce que ça ne tient pas debout que dans une société comme la nôtre, dans un État comme le nôtre, on soit dépendant d'une compagnie aérienne pour essayer de tenter de rejoindre ce grand espace et les différentes régions qui sont des régions économiques importantes et qui participent à l'essor économique de l'ensemble du territoire du Québec. Alors donc, je ne sais pas, mais encore une fois, Air Canada, qui est considérée pour être une des grande compagnie aérienne au monde, eh bien, c'est pas tout à fait le cas. On va parler maintenant à Gilles Brien, justement, météorologue. Bonjour, M. Brien.
Bonjour.
Alors, donc, canicule, on va en avoir combien de ça? Combien on en a annuellement, généralement?
Disons que la région de Montréal, on connaît à peu près 3-4 périodes par été, là, avec des températures qui dépassent 30 degrés. On va s'entendre, une canicule, on a des définitions différentes partout dans le monde, parce que la météo n'est pas pareille partout. Ici, au Québec, on utilise, disons, la formule 3 jours consécutifs avec 30 degrés ou plus, sans précipitation, ben, vous avez une canicule. Il y en a d'habitude 2 à 3, peut-être Montréal, mettons 3 à 4, là, depuis quelques années. Mais, disons que celle qu'on connaît cette année, ça commence vraiment, c'est la troisième, là, qui débute à Montréal. Hier, ça a commencé avec 29-30, aujourd'hui 31.
Est-ce que c'est exceptionnel, là, une 3 en si peu de temps, juillet commence à peine?
Oui, définitivement, parce que c'est des canicules qu'on connaît d'habitude au mois de juillet, là, au maximum de la chaleur. Et là, depuis quelques années, ben, c'est la signature du changement climatique. Les canicules sont plus sévères, elles sont plus précoces et elles sont surtout plus longues.
C'est ça que je me demandais, parce que, bon, s'il y a un orage ce soir, ça ne vient pas éliminer le fait qu'on est dans une période caniculaire, là.
Non, tout à fait. Là, ce qui se passe, c'est des orages, surtout ce qu'on appelle de masse d'air, des orages isolés. C'est pas suffisant pour satisfaire les agriculteurs, parce qu'un orage peut faire du surplace dans un quartier de Montréal ou sur une petite ville. On a vu ça dans les derniers jours, là. Il y a des coins de la rive sud qui ont connu 60 mm de pluie en moins d'une heure. Donc, les orages, à ce temps-ci de l'année, ben, ça peut abreuver un petit peu les pelouses, mais c'est trop local. Il faut attendre les gros systèmes météo, les dépressions, là, ou les creux majeurs. Puis ça, on voit pas ça, là, pour la semaine.
OK. Pour tous les climato-sceptiques de ce monde, et peut-être quelques-uns qui nous écoutent, est-ce que c'est vraiment des changements climatiques qui entraînent cette situation-là, ou si on parle d'un phénomène que l'on reverrait ou qu'on a vu il y a 10 ans, qu'on va revoir dans 5 ans, est-ce que c'est vraiment une tendance par une modification de la situation climatique planétaire?
Oui, définitivement, si vous me demandez mon opinion, oui, à un moment donné, on va arrêter de parler des arbres, là, on va parler d'une forêt. Puis, ce qui se passe depuis 20 ans, on voit des épisodes de chaleur extrême en Asie, en Europe, même dans l'Arctique. Écoutez, la Sibérie, là, qui a connu des températures, on n'a jamais vu ça, 37-38 degrés, ça s'est passé cette semaine. Alors, ça, c'est des signatures. On voit le changement climatique, pas uniquement dans le ciel, on le voit dans la faune, on le voit dans la flore. La maladie de Lyme, là, et les différents insectes, là, qui nous assaillent depuis quelques années.
Qui montent au nord du 45e parallèle.
voilà, et vous avez des coyotes, on voit à Montréal, c'est parce que l'air de la distribution naturelle de territoire est en train de s'étendre vers le nord. Toutes les espèces végétales animales présentement, c'est comme une course contre la montre, et ça progresse vers le nord. Écoutez, même les crustacés, vous savez que l'estuaire de Saint-Laurent, depuis quelques années, les pêches de homards et les poissons, ça augmente parce que dans le golfe du Maine, c'est trop chaud. Température de 21-22 degrés dans l'eau, ben, les poissons aiment pas ça, ils montent au nord. On en profite, il n'y a pas uniquement des désavantages au changement climatique.
Oui, des avantages, mais c'est un déséquilibre quand même qui amène cet avantage comme consommateur, mais c'est pas la réalité comme citoyen et habitant de la Terre.
Ah, tout à fait. Ici, au Québec, on est en première place, là, première loge pour voir le changement climatique parce que les Québécois sont habitués à un climat très, très variable, très changeant. Il n'y a pratiquement pas beaucoup de populations dans le monde là qui peuvent s'habiller, se déshabiller, se couvrir de vêtements et en moins de deux semaines, on passe d'une canicule à du temps froid. Rappelez-vous, le mois de mai, on a eu de la neige à Montréal le 8 mai et le 26 mai, on a eu 34 degrés.
Faut être fait fort.
Puis, mais malheureusement, on paye le prix. Hein. Les Québécois, sur un climat comme on a nordique, là, on meurt plus en hiver. Vous avez plus de chances de décéder en hiver que dans n'importe quelle saison. L'hiver au Québec, c'est un tueur en série.
Oui, tout à fait.
Et le manque de nutriments, de vitamines, le manque d'oxygénation. Vous savez, en décembre, on est vraiment au minimum de sa forme. Là. C'est pas le temps de faire des records sportifs, tout ça.
Donc, prudence, M. Quentin, pour les prochains jours, et on va avoir certainement encore une fois un autre épisode éventuellement d'ici à la reprise des feuilles rouges.
Disons qu'on est
rendu... Ah, M. Brien, excusez-moi.
Oui.
Excusez-moi, Gilles.
C'est ça. Écoutez, le temps violent, ça a commencé. Hein. Vous savez que cet été, on prévoit un été qui sera plus chaud, plus sec que la normale, une normale de 30 ans. C'est ce qu'on observe aux États-Unis, puis là, cet air chaud-là, maintenant, sur le sud du Québec, sur l'Ontario. Les avertissements de chaleur, là, présentement, ça s'étend, là, d'une province pratiquement sur 1000 kilomètres. Bon. Et il faut s'adapter.
Merci beaucoup. Merci bien de vos lumières et de votre éclairage, Gilles Brien, météorologue. Merci bien. Vous savez, à toutes ces périodes de canicule, à toutes ces périodes d'été, à toutes les périodes estivales, on déplore, malgré les messages, malgré la prudence, malgré la sécurité, malgré qu'on se regarde dans le miroir et on dit « il me semble que j'ai tout pris les mesures nécessaires pour la protection des miens et de mes enfants dans les piscines, dans les arrières-cours. » Surtout après avoir été confiné, on veut prendre l'air, les enfants veulent se baigner, etc., etc., etc. Vous connaissez la famille Grou? C'est ceux qui font l'objet d'une émission à Canal Vie. Ils ont 12 enfants, je pense. Ils ont eu le triste cas de voir Amaya, une de leurs toutes petites, retrouvée inconsciente à l'intérieur de la piscine familiale. On va parler à Tara Lawson et Pascal Grou, qui sont les parents de la petite Amaya. Bonjour, monsieur, madame.
Bonjour.
Vous êtes vraiment ensemble parce que vous avez répondu tous les deux ensemble. Bonjour, vous êtes timés.
Oui, c'est vrai, en effet.
On cue, comme on parle dans le métier. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez 12 enfants. Quand on a 12 enfants, très évidemment, ils s'élèvent un peu entre eux. Les parents sont là toujours, évidemment, comme responsables et mettre les lignes directrices de la sécurité ou de toute autre activité de la vie familiale. Qu'est-ce qui est arrivé à Amaya? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, premièrement, on a 11 enfants, mais pas loin de 12, oui.
Excusez-moi, j'en ai un, moi, puis j'en avais plein les bras. Alors, je vous écoute.
On était à l'extérieur de la maison, on raclait le terrain avec les enfants, c'était une belle journée, les enfants en avaient profité, ils ont sorti des jouets, ils jouaient à l'extérieur. Et là, à la fin de la journée, s'en venait, on a dit, OK, tu sais, la majorité des enfants rentrent dans la maison, on va aller préparer le souper. Et c'est là que les jouets des enfants, on les avait serrés dans le cabanon à côté de la piscine. Mm-hmm. Et un des plus vieils a décidé d'aller serrer les jouets dans le cabanon. D'abord, la grosse barreuse qu'on a d'habitude était débarrée pour qu'elle puisse faire du aller-retour. Et à ce qu'on peut s'imaginer, un des plus jeunes aurait ouvert pour aller voir et aurait laissé passer la petite de 2 ans en même temps. Lui est retourné dans la maison en laissant sa sœur là. Vu qu'il était jeune, il pensait pas au danger. Et là, le temps que ma fille revienne avec quelque chose d'autre à serrer dans le cabanon, elle a lâché un cri, « Oh my God, c'est-tu Amaya? » Et puis là, Pascal, entre-temps, était juste à côté d'elle. Il n'y avait pas, tu sais, t'as pas tendance à toujours regarder là, vers la piscine à chaque fois qu'il passe à côté. Il a regardé, c'est là qu'il l'a vu, qu'elle était inconsciente, elle flottait sur, sur l'eau, là, dans le fond.
Exact.
Pascal, oui, écoutez, là, vous voyez ça, là, on se dit, c'est pas possible, ou si on pense à rien, ou si on saute à l'eau, c'est laquelle, c'est lequel? Quelle a été votre réaction immédiate?
Actuellement, c'est plus instinctif. On est parti en courant. Ma fille a couru plus vite que moi. Et elle a commencé à sortir. Sa sœur était juste sur le rebord de l'eau, en fait. Donc, on était capable de la rejoindre tout de suite. Elle a commencé à la sortir. Puis moi, c'est en arrivant, j'ai continué, je l'ai aidée. Puis on l'a étendue sur le dos. Puis on a commencé les manœuvres de réanimation.
Elle était inconsciente.
Sur le coup, elle était inconsciente, exact. Mais il faut dire aussi qu'il faisait très froid. Ce matin-là, c'était au mois d'avril, donc l'eau était pratiquement glaciale. C'était, pour répondre à votre question, c'est plus instinctif. J'ai pas pensé à quoi faire, j'ai agi.
Dites-moi, est-ce qu'elle a répondu rapidement aux manœuvres de réanimation que vous avez instaurées?
Heureusement, oui. Heureusement, on ne croit pas qu'elle ait été longtemps dans l'eau, étant donné qu'on était là, ça faisait quelques minutes.
Mais c'est-tu assez vite, hein? Ça se passe-tu assez vite? C'est incroyable. Une fraction de seconde.
Oui.
C'est tellement silencieux. On a toujours cru que une noyade, ça aurait fait du bruit. On aurait entendu l'enfant se débattre. Puis non, malheureusement, c'est tout contraire.
C'est quelque chose de silencieux. L'enfant tombe à l'eau, s'approche, on n'entend rien. Et c'est l'affaire de quelques instants, puis on pense...
Exact.
La petite, elle, est-ce qu'à son réveil, c'est-tu comme si on la réveillait de son lit? Est-ce qu'elle est mal? Est-ce qu'elle pleurait?
C'était un pleur que j'avais jamais entendu avant. C'est un pleur comme mouillé, fatigué, comme...
Elle était épuisée.
Épuisée.
Ah oui.
C'était pas comme... « Ah, vous m'avez réveillée. Ah, qu'est-ce qui se passe? » C'était vraiment comme... Elle se forçait à se combattre, à se débattait, je veux dire, pour pleurer.
Ça l'a pris.
Oui, Pascal a continué à faire le RCR pendant, essayer de l'aider à, comme on se disait, elle a-tu l'eau dans les poumons, hein? Jusqu'à temps qu'elle a ouvert les yeux, puis là, on voyait genre qu'elle était plus là. C'est là que moi, j'ai dit, OK, au fait, tu sais, va chercher des serviettes. On l'a mis sur son côté, on l'a déshabillé, on a essayé de la réchauffer parce qu'elle ne veut pas être en hypothermie.
Mm-hmm.
Et puis, on aurait dit que ça a pris une éternité, mais tu sais, tout se fait en dedans d'une couple de secondes, mais on dirait que ça dure à vie éternelle.
Pascal, vous avez pris donc des cours de RCR. Vous savez comment ça marche?
Actuellement, non. J'ai pris des cours de gardiennage averti quand j'étais jeune.
Okay.
J'avais une certaine base de les méthodes, quoi faire, mais jamais pris un cours. Donc,
quand ça arrive là, sur le coup, là, c'est votre enfant. Tu sais, apprendre théoriquement sur un mannequin, c'est une affaire.
Oui.
Tu dis, ben là, je le sais, mais j'espère ne pas m'en servir. Et puis, des coups, ça arrive, mais là, c'est votre propre fille. Elle a 2 ans. Il n'y a pas d'hésitation? On saute sur le corps immédiatement puis on agit?
Moi, non. J'ai aucune hésitation. Puis je crois que ce soit n'importe qui est en détresse. L'adrénaline, elle embarque et tu veux seulement agir. Tu veux sauver la personne. Tu veux sauver l'enfant. Donc, tu ne penses pas aux conséquences vraiment.
Est-ce qu'on se sent coupable que cette situation-là arrivée?
Oui.
Il y a de la culpabilité.
Qui dure, puis qui finit jamais, même à ce jour.
C'est des images qu'on a en tête qui me reviennent assez fréquemment. Tu n'oublies pas ça. Puis...
Mais la culpabilité de dire, OK, j'aurais dû être là. Après, elle a passé à travers quoi? Qu'est-ce qu'elle s'est ressentie? Elle a dû avoir peur. Oh my God, j'ai laissé mon enfant vivre ça. J'ai laissé mon enfant avoir peur, avoir mal.
Quelle mesure qu'on aurait pu faire différente.
Si tu te blâmes à 100%, tu te sens horrible. Puis, je veux dire, c'est quelque chose que j'espérais pour personne.
Mais quelle belle occasion d'une leçon pour les 10 autres.
Oui, ben disons que je pense que c'est une expérience que tout le monde a vraiment réalisé à quel point que la piscine, c'est le fun, mais ça peut être très, très dangereux. Et puis justement, actuellement ce matin, avant qu'on vous parle, on était en train de faire avec les enfants et une compagnie un cours de RCR, premier soin.
À tout le monde.
La famille ensemble.
À tout le monde. Vous savez, quand on a 11 enfants ou beaucoup d'enfants, on se dit, écoute, il va arriver de quoi à quelqu'un un jour dans cette affaire-là? Là. Il y a un fatalisme qui s'installe. Tout le monde ne vit pas sous l'arc-en-ciel dans un pays de licorne. Il arrive des choses des fois. Est-ce que ça, c'était quelque chose que vous aviez dit, « Oh mon Dieu, si il fallait qu'il m'arrive telle chose, s'il fallait qu'il arrive telle chose à un de mes enfants? » Je suis sûr que toutes les mamans et les papas vivent avec ça. Est-ce que vous aviez pensé à un tel scénario?
Bien, certainement que dès qu'on avait une piscine, on a toujours eu des piscines, puis j'ai toujours une crainte. Mon Dieu, j'espère que ça va jamais arriver. T'sais, on prend les précautions nécessaires du mieux qu'on peut. La cour est clôturée, la piscine est clôturée, il y a un ressort automatique dessus, elle est toujours barrée en tout temps.
Ouais.
Puis malheureusement, c'est arrivé. Donc, je pense qu'on prend jamais assez de précautions. Il faut toujours être vigilant. Oh. La vigilance, c'est
ouais, et vigilant, on peut pas mettre un enfant dans une bulle, veut pas, autant qu'en tant que parent, on aimerait ça pour pouvoir les protéger de tout. Mais je veux dire, tu fais du mieux que tu peux, tu essaies de pas vivre dans la peur et de montrer à tes enfants de pas vivre dans la peur non plus. Puis peut-être de leur montrer, comme qu'on a fait ce matin, le RCR, de préparer, puis aussi demain,
les cours de
premiers soins, de natation, de tout ce que tu peux faire pour essayer de prévenir un autre épisode ou un autre accident. C'est la seule chose qu'on peut faire en tant que parent.
Tara Lawson, Pascal Grou, les parents de la petite Amaya et de 9 autres enfants. Je vous dis merci de votre témoignage et de partager ça, parce que souvent quand on vit un drame comme celui-là qui fait en sorte que on se confine dans sa tête en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui nous est arrivé? » Mais là, d'ouvrir votre expérience à d'autres, je pense que c'est un message qui est plus important que n'importe quelle publicité que l'on peut écouter et entendre à répétition, parce qu'on a toujours l'idée que c'est pas à nous autres que ça va arriver. Il y a comme une pensée magique. C'est pour les autres, les drames. Nous, on s'en sort.
Voilà. Ouais.
Merci beaucoup de votre témoignage. Merci bien.
Ça nous fait plaisir.
Oui.
Merci, au revoir. Bonne chance avec les petits. Au retour, on va parler d'une autre question également. Et nous allons cependant en profiter pour vous dire que s'il y a de la chaleur présentement, s'il y a de la pandémie, s'il vous plaît, redoublez. Je le sais comment ça se passe. Un party d'adultes, les enfants sont là, tout le monde se baigne. Veux-tu encore un autre petit verre de blanc? Oui, OK, c'est correct, tout le monde. Hey, qu'est-ce que tu as fait de bon dernièrement? Puis là, tout le monde se met à placoter et à jaser. Plouf! Hey, oui, le dernier. Oh, l'as-tu vu? Non. Papa, regarde, il y a quelqu'un dans le fond. C'est ça, le scénario. On s'arrête pour une pause.